franceinter.fr.
Il est 8h30 sur France Inter. La revue de presse de Frédéric Pommier. Bonjour mon cher Frédéric.
Bonjour chère Patricia, bonjour Pierre et bonjour à tous. Et vous, avez-vous déjà triché lors d'un examen? C'est la question qu'a posée le Parisien dans sa rubrique Voix Express. Question posée à des passants, 5 passants, les réponses varient. Moi je n'ai jamais triché, mais je viens de passer des partiels et j'ai vu beaucoup de tricheurs. Relate ainsi cet étudiant, un Versaillais de 24 ans, il est dans une école d'ingénieurs. Et certains de ses camarades se sont servis de leur téléphone sur lesquels ils avaient enregistré des formules lors des examens, dit-il. Il n'y a que 3 surveillants pour 150 élèves. Autre témoignage, Chloé, 22 ans, étudiante de Clermont-Ferrand. À la fac, dit-elle, j'ai des amis qui recopient leurs cours sur des feuilles de couleur avant les examens. De la couleur des brouillons qu'on nous donne lors des épreuves. Ensuite, ils les ressortent au moment des épreuves. Mais Chloé, est-ce qu'elle triche? Je pose parfois, dit-elle, des questions à mes voisins de table. J'appelle ça de l'entraide verbale. De l'entraide verbale, l'expression est jolie. Plus étonnant encore, ce marchand de biens de 46 ans qui habite à Strasbourg, je me suis fait remplacer pour l'épreuve d'athlétisme au bac. Remplacé par un ami qui faisait les championnats de France. Il a mis mes lunettes et il s'est présenté avec ma carte d'identité. Personne n'a rien remarqué. Pour que ça reste crédible, il a juste ralenti à la fin du 100 mètres. Et j'ai eu 20 sur 20. Des exemples qui viennent illustrer le dossier à la une du quotidien. Les copieurs passent le bac. Les chiffres de la fraude au bac de l'an dernier montrent une nette augmentation de la triche par copier-coller de textes trouvés sur Internet. Une augmentation d'environ 5% sur l'ensemble du territoire. Mais en Île-de-France, dans l'académie, ce type de plagiat a littéralement explosé. La méthode est chaque fois la même. Un copier-coller qu'on enregistre sur sa calculatrice ou sur son téléphone, lesquels sont maintenant interdits. D'après une enquête, près de 60% des lycéens reconnaissent avoir déjà triché. Pas forcément au bac, mais triché lors d'une épreuve sur table. Toutefois, rappelle le journal, ces lycéens ont pléthore de mauvais exemples à suivre, notamment en politique. Dernier mauvais exemple en date, celui de la députée UMP Valérie Boyer, qui a dû reconnaître le mois dernier qu'elle s'était largement, très largement, inspirée d'une page Wikipédia pour rédiger sa proposition de loi relative à la reconnaissance du génocide assyrien. Elle a donc reconnu un trait grossier, copié, collé. C'est d'ailleurs également ce qu'ont dû faire les journalistes chargés de la titraille du Figaro ce matin.
Oui, sur 3 pages, en effet, on retrouve la même expression. C'est l'expression « nouveau succès ».
Nouveau succès pour le Rafale. À la une des pages Chaumont avec le Qatar, le Rafale remporte un nouveau succès à l'exportation, toujours dans les pages Saumon et à la une du quotidien propriété de Serge Dassault. Dassault qui fabrique le Rafale. Un nouveau succès pour l'avion de combat français. Nouveau succès, nouveau succès, nouveau succès. Bref, Dassault est content, donc le Figaro est content. Après l'Égypte et l'Inde, le contrat avec le Qatar doit être signé jeudi, lundi à Doha, en présence de François Hollande et de son ministre de la Défense. Sud-Ouest applaudit également car ces nouveaux contrats devraient créer au total près d'un 1000 d'emplois dans la région. Une autre histoire d'avion fait la une ce matin de la Dépêche du Midi. Histoire d'avion est polémique, c'est l'affaire de l'espionnage de hauts responsables français par les services secrets allemands et ce pour le compte de la NSA américaine. L'Elysée et le Quai d'Orsay auraient ainsi été écoutés, mais le groupe Airbus aurait été écouté également. Airbus qui a déposé plainte contre X et attend aujourd'hui des explications de l'Allemagne, une affaire qui illustre la recrudescence de l'espionnage industriel, milieu où là aussi on essaie de se préserver contre tous les copier-coller.
Dans Le Monde, c'est une affaire qui fait la une aujourd'hui, sombre affaire et scandale dans l'armée française.
Le scandale de ces 16 soldats accusés de viol sur mineurs en Centrafrique, c'était en 2013 et 2014, on en a parlé beaucoup déjà sur notre antenne, et c'était dans le cadre de l'opération Sangaris, un scandale révélé par le journal britannique The Guardian, reportage à Bangui d'Arthur Dana dans les colonnes du Figaro. Bien sûr que l'on savait, soupire Serita en passant la tête dans l'entrebâillement de sa tente déchirée. J'ai essayé d'alerter les autorités, mais personne ne nous écoute. Serita vit aujourd'hui dans le camp de déplacés de l'aéroport de Mboko, un camp où se seraient donc déroulés les viols et où les Centrafricains ne cachent pas aujourd'hui leur colère ni leur dégoût. Les enfants étaient affamés, ils réclamaient de la nourriture et de l'eau aux soldats français, explique Miramou. Les soldats auraient répondu « Si tu veux manger, il faut que tu me suces d'abord ». Il faisait venir des filles, parfois des petits garçons, de la blague graveleuse aux abus sexuels, il n'y aurait eu qu'un pain. Le Monde parle du coup d'une affaire embarrassante pour l'armée française, très embarrassante en effet, c'est le moins qu'on puisse dire, sur le site Rue 89. Vous lirez à ce propos la tribune de l'avocate Laure Henich-Luigière. « Viol contre nourriture et au Rwanda », interroge-t-elle, en rappelant qu'en 2005, des femmes tutsies avaient déposé plainte, victimes elles aussi de viols commis par des militaires français venus pourtant les secourir. Depuis, ces femmes attendent toujours et elles s'interrogent pourquoi cet emballement médiatique à propos de la Centrafrique et aucun emballement pour ce qu'elles ont subi, parce que violer des enfants est immédiatement scandaleux, certes, mais violer des femmes, un scandale sexuel dans l'armée. On se dit que Charlie Hebdo devrait en faire ses choux gras dans son prochain numéro.
De mercredi. Hein,
de mercredi prochain.
Charlie Hebdo, justement, qui recevra mardi à New York un prix pour la liberté d'expression.
Un prix pour le courage et la liberté d'expression remis par une société littéraire. Mais ça ne plaît pas à tout le monde, comme le rappelle ce matin Libération. 145 auteurs anglo-saxons s'opposent à cette distinction en se référant aux unes controversées sur l'islam. Les unes de l'hebdo satirique sur le réseau Twitter, Salman Rushdie a vertement critiqué ses collègues frondeurs en les traitant de lavettes. Quant à Gérard Biard, le rédacteur en chef de Charlie, il était invité hier à une rencontre à New York. Il s'est exprimé sur cette polémique. Récit de la rencontre sur le site internet du Monde, il évoque un malentendu. Et sinon, quelle est l'ambiance aujourd'hui à Charlie? Elle est mélancolique, a-t-il résumé. Et l'ambiance au Front National? Chaotique, dirons-nous. Toute la presse revient sur la journée d'hier, le défilé et le discours devant l'Opéra de Paris. Trois militantes des Femmes qui ont déployé des banderoles avec l'inscription « Aïe Le Pen », l'intervention musclée du service d'ordre du parti, l'apparition inopinée de Jean-Marie Le Pen à la tribune. Alors que sa fille devait entamer son discours, sans oublier les journalistes de France 5 et du petit journal de Canal+, frappés par des militants, Patakès en série pour le 1er mai du FN, titre le courrier Picard, tandis que la Provence évoque le 1er mai sous tension de Marine Le Pen. 1er mai contrarié, écrit le Figaro, la dépêche du midi est plus claire et parle du 1er mai pourri de Marine Le Pen. Alors sur l'action des Femmes, les éditorialistes sont assez sévères. Denis Domin, dans La Nouvelle République, parle d'une opération commando topless au message sommaire. Hervé Chabot, dans L'Union, parle d'une provocation d'excitée peinture lurée qui n'est que le degré zéro de la politique. N'empêche, elles ont tout de même réussi à voler la vedette à Marine Le Pen, note Patrice Chabanet dans le journal de la Haute-Marne. C'est d'ailleurs également ce qu'a tenté de faire son père, lui voler la vedette en s'incrustant à la tribune afin de recueillir l'ovation de la foule, une scène qui laisse penser que l'affaire de famille est loin d'être réglée, analyse Pierre Fréhel dans Le Républicain Lorrain. Elle laisse aussi penser que le long processus de dédiabolisation n'a pas que des partisans au sein du Front National. Pour sa part, Jean-Claude Souléry revient sur l'agression de l'équipe de télévision, des équipes de télévision, quand un parti ne supporte ni la contradiction ni la contestation et que la politique devient une affaire de coups. Coup au sens propre du terme, voilà bien l'image déchirée de la démocratie. Il dénonce également la violence des propos de la présidente du FN, car on en oublierait presque qu'elle a prononcé un discours qui, d'après donc l'éditorialiste, trahissait mal ses obsessions purement xénophobes. C'est aussi ce que relève Michel Bassy de l'Éclair des Pyrénées, pour qui Marine Le Pen n'a pas su prendre et parler avec mesure, comme doit le faire le futur chef d'État qu'elle ambitionne d'être. Pas de mesure, non, mais un discours qui ne rompait en rien avec ceux de son père, les dérapages en moins, rejet du système, rejet de l'Europe et bien sûr, rejet de cette immigration massive qui serait la principale cause à la fois du chômage et de l'insécurité. En somme, Marine Le Pen n'aurait fait que du copier-coller.
Quoi d'autre à retenir dans les journaux ce matin?
Les autres défilés du 1er mai, les défilés de la fête du travail, défilés dans l'unité, commente le Havre Libre. Un 1er mai en ordre dispersé, observe l'Indépendant. Unité, dispersion de regards, deux points de vue sur des rassemblements qui, d'après la CGT, ont rassemblé 100 000 personnes à travers le pays, deux fois moins que l'an dernier. Pour l'écho de la Haute-Vienne, il faut que les syndicats s'interrogent sur ce faible taux de participation. Les défilés ont fait un flop, confirme le Parisien, qui enfonce le clou avec une enquête au Doxa sur l'image des syndicats. Diriez-vous qu'ils ont su s'adapter aux enjeux économiques de notre pays? Les trois quarts des sondés répondent par la négative. Et en général, avez-vous plutôt une bonne ou une mauvaise opinion des syndicats? Les deux tiers des sondés répondent une mauvaise opinion. En revanche, ils sont plus de la moitié à dire qu'ils ont une bonne opinion des chefs d'entreprise. Les patrons mieux aimés que les syndicats, titre Le Quotidien comme une provocation. Mais le personnel politique est encore bien plus mal aimé. D'après donc cette enquête, près de 9 Français sur 10 ont une mauvaise image des hommes et des femmes politiques. Ils ont vécu le séisme au Népal. Témoignage de touristes dans Paris-Normandie, des touristes normands qui racontent ce qu'ils ont vécu désormais. D'après le gouvernement népalais, il n'y a plus aucune chance de retrouver des survivants. Enfin, dans la presse, outre-Manche, tout le monde continue d'attendre la naissance du royal baby. Pierre Veil est également en transe. Patricia Martin, vous demandez si vous devez tricoter un petit gilet.
Ah, ça y est, c'est déjà
rose
fait.
Ou bleu. Ah ben, rose ou bleu. Les deux, vous auriez pu choisir jaune. Sur le site Atlantico, une interview santé.
Pas le jaune pour les bébés.
Kate Middleton, la tante qui n'en finissait pas. L'accouchement au-delà du terme, jusqu'où ça peut aller? Et là, on apprend qu'en Angleterre, le terme d'une grossesse est de 40 semaines. En France, c'est 41. En Angleterre, c'est 40. C'est
pour ça que nous, faire la même chose.
En France,
bien faire comme les autres, les Anglais,
dit,
vous savez bien.
C'est pour ça que les Anglais disent qu'elle est arrivée à terme depuis fort longtemps.
Et là, elle est entrée dans un hôpital londonien ce matin.
Et si jamais le bébé ressemble à son grand frère, on pourra dire que Kate a fait un joli copier-coller.
Merci, c'était la revue de presse de Frédéric Pommier.